quelques-unes des grandes promesses que nous retrouvons dans le Nouveau Testament concernant la prière. Donc, c'est la suite, et c'est la suite de la semaine dernière. Mais sachant que certains se sentent intérieurement coupables parce qu'ils savent qu'ils devraient prier davantage, eh bien, je vise plutôt ce matin, à travers ce message, à vous encourager en vous montrant les possibilités illimitées de la prière. Récemment, j'ai rencontré un frère qui m'a raconté qu'il se levait à 5h30 du matin à chaque jour pour prier et lire sa Bible, mais que la prière était le domaine où il avait le plus besoin de progresser dans sa vie. Je connais ce frère, c'est quelqu'un qui se préoccupe de vivre comme Dieu le demande, et pourtant il m'a partagé quelque chose que nous désirons tous, c'est d'être plus fidèle pour ce qui concerne la prière. Et il y a au moins trois choses qui nous empêchent de nous investir davantage dans la prière. La première, c'est de penser que le fait de prier ne changera rien ou ne changera pas grand-chose pour notre vie. Et je pense qu'il est facile de tomber dans cette sorte de fatalisme en disant que Dieu va faire de toute façon ce qu'il a envie de faire. Que je prie, que je ne prie pas. Alors, nous ne prions pas parce que nous pensons que cela ne va rien changer dans nos vies. La deuxième chose qui nous empêche de nous investir davantage dans la prière, c'est de craindre que nous ne prierons pas de la bonne façon, que nous n'utilisons pas nécessairement les bons mots, la bonne formule, et alors Dieu ne prendra pas la peine de nous écouter ou d'écouter ce que nous allons lui dire parce qu'on n'a pas la parole facile, et ainsi de suite. La troisième chose qui nous empêche souvent de nous investir davantage dans la prière, c'est cette petite voix qui se fait entendre à l'intérieur de nous, qui nous dit que c'est bien de prier, mais qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop de choses à faire pour prendre du temps pour prier. Alors, on ne prie pas comme on le devrait ou comme on le souhaiterait le faire. Plutôt que de prendre du temps à examiner ce qui nous empêche de prier davantage ce matin, permettez-moi de vous partager une bonne nouvelle. Dieu se réjouit de recevoir vos prières. Dieu se réjouit de recevoir vos prières. Est-ce qu'on est capable de dire ça tout le monde ensemble? Dieu se réjouit de recevoir ma prière. Dieu se réjouit de recevoir... Oui. Est-ce que vous en êtes convaincus? Oui. Il veut que nous prions, il nous demande de prier, il nous exhorte à prier et il plaide avec nous pour prier. Parce que la prière est le moyen que Dieu a choisi pour que nous recevions de lui ce dont nous avons besoin. Tournez avec moi dans Matthieu chapitre 7. On va lire les versets 7 à 11. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11. Ce n'est pas le verset le plus facile, les versets ou le passage à prendre pour parler de la prière, mais c'est tellement radical ce que Jésus dit. Et moi, ce que j'aime bien avec le Seigneur Jésus, il n'y a rien de gris. Souvent, on parle avec des gens, on nous dit, oui, dans la Bible, il y a des zones grises. Mais avec le Seigneur Jésus, c'est blanc ou c'est noir. Si on choisit la zone grise, bien, c'est qu'on n'a rien compris, on ne veut rien comprendre de ce qu'il nous dit. Mais il n'y a pas de zone grise avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Regardez ce qu'il dit. Chapitre 7, Matthieu, versets 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera. Il n'a pas dit demandez et l'on vous donnera peut-être. Il dit demandez et l'on vous donnera. Il dit cherchez, vous trouverez. Il dit pas cherchez, vous trouverez peut-être. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Non, pas chercher, frapper, on vous ouvrira peut-être. Frapper, on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Ah, c'est clair, ça, hein? C'est clair. La question qu'on pourrait se poser, qu'on va regarder ce matin, pourquoi qu'il arrive qu'on demande, qu'on ne reçoit pas, qu'il arrive qu'on cherche, qu'on ne trouve pas, et qu'il arrive qu'on frappe et qu'on n'ouvre pas? C'est une bonne question à se poser. Parce que là, sinon, ici, Jésus, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris lui-même dans la prière. Il nous dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? À combien plus forte raison? C'est si nos enfants nous demandent du pain, on ne donnera pas un serpent. Si on demande une chose à Dieu, il ne nous donnera pas une autre chose qu'on lui a demandé. Il va nous donner la chose qu'on lui a demandé. Dans ce passage, Jésus nous dit de demander, de chercher, de frapper. Et quand vous regardez dans l'original grec, eh bien, nous pourrions donc traduire ces trois mots de la façon suivante. Continuer à demander, continuer à chercher et continuer à frapper à la porte. Continuez. Cela signifie, c'est là le secret, que si nous voulons voir Dieu répondre à nos prières, il nous faut persévérer. Il y a quelqu'un la semaine passée, et c'est bien que ça tombe sur le sujet de la prière, qui est un petit peu traumatisé parce que quelqu'un lui a dit, écoute, si tu répètes continuellement les mêmes prières à Dieu, si tu persévères dans ta prière, c'est que tu manques de foi. Tu es censé le demander une seule fois et après ça, c'est terminé. Mais ce n'est pas ce que la parole dit. Hein. C'est vraiment pas ce que la parole dit. Le Seigneur, il dit, demandez, continuez. Le mot grec, c'est continuez à demander tant que vous n'avez pas reçu. Continuez à frapper tant qu'on ne vous a pas ouvert la porte. Continuez à chercher tant que vous n'avez pas trouvé. C'est ça que ça veut dire. Les trois mots originels du grec, c'est ce qu'ils veulent dire. Pourquoi? Parce que Dieu répond rarement à la prière la première fois. Voilà pourquoi on ne peut pas prier juste une fois et dire, ben, j'attends que Dieu me réponde. Dieu n'a jamais, en tout cas dans ma vie, n'a jamais répondu la première fois à ma prière. Jamais. Peut-être que vous êtes plus chanceux que moi, mais moi, jamais. Et j'ai compris pourquoi. Premièrement, c'est que Dieu veut me donner le temps de m'examiner pour savoir quelles sont les raisons qui m'amènent à lui de faire cette demande. Est-ce que c'est une raison purement égoïste ou c'est une raison qui va servir à le glorifier? Et si c'est une raison purement égoïste, tôt ou tard, il va placer quelqu'un sur mon chemin où il va utiliser la parole pour me montrer qu'il n'exauce pas ce genre de prière, que sa réponse, elle va être non. Mais Dieu nous donne du temps, il veut nous donner du temps pour qu'on puisse examiner. Pourquoi tu demandes cette prière-là? Pourquoi tu fais cette demande devant mon trône ce matin? Et c'est normal que le Seigneur pose cette question-là. Est-ce que tu le fais parce que tu as un fardeau? Et souvent, la persévérance, hein, le fait de persévérer dans nos demandes, eh bien, ça démontre aussi qu'on a un fardeau, qu'il y a un poids qui nous pèse par rapport à cette demande qu'on fait à Dieu et qu'on veut voir, on veut la voir se réaliser, si c'est possible, de notre vivant, parce que Dieu réalise aussi les prières qu'on a faites après notre mort, mais afin qu'on puisse se glorifier, rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. Écoutez, moi, j'ai eu un cancer, j'ai pas prié une fois le Seigneur. Il y avait 40 personnes au moins en bas qui ont prié le Seigneur pour ma guérison, quoi. Des gens qui ont pleuré, des gens qui ont confessé des péchés à ce moment-là. Et on a prié. Soir après soir, je me souviens qu'on a prié. Pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez? Et Dieu a exaucé la prière. Il aurait pu l'exaucer différemment aussi, quoi. C'est Dieu qui décide, hein. C'est beau de prier pour la guérison d'une personne, même si elle a 97 ans, mais tôt ou tard, à un moment donné, on va mourir, hein. On doit mourir quand même. Donc, ce n'est pas nécessairement dans le service à quelqu'un de prier pour qu'elle vive 105, 120, 122 ans, quoi. Quelque part, c'est à un moment donné, on doit vraiment mettre l'emphase du Seigneur, que ta volonté se fasse et non pas la mienne, quoi. Oui. Et c'est vrai que même si on est chrétien, on est attaché aux gens avec qui, les gens qui nous ont mis au monde, les gens qui nous ont éduqués, les gens qui nous ont aidés à entrer dans cette vie, dans le domaine du travail, dans les études, ainsi de suite. Mais à quelque part, c'est toujours... Comme Jésus a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et j'ai expliqué il y a 2-3 semaines, c'est toute une différence que ta volonté soit faite. Et quand on dit ça, souvent on est frustré parce que ça, quand c'est pas notre volonté qui est faite, on est un petit peu frustré que Dieu ait répondu différemment. Mais quand on termine la prière en disant, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, le peu importe ce qui va la réponse de Dieu, on va l'accepter. C'est tout à fait différent. Et je trouve que c'est un beau modèle de finition de prière que le Seigneur Jésus nous a laissé. Oui, c'est vrai, Dieu répond rarement à une prière la première fois. Cependant, cela ne veut pas dire que parce que Dieu tarde à répondre, qu'il ne se préoccupe pas de ce que nous lui demandons. Nous devons donc demander et continuer à demander. Nous devons donc chercher, continuer à chercher. Nous devons donc frapper. Si nous osons le faire, nous allons recevoir, nous allons trouver et nous verrons la porte s'ouvrir toute grande pour nous. Amen. Oi, 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 oi. Amen. Ah, OK. Parce que là, avec les petits amens que j'ai entendus, je me suis dit, il n'y a pas grand monde qui a été exaucé dans leur prière, Seigneur. Ouais. Voilà. Amen. Elle a un beau témoignage de soeur qu'elle va amener à son baptême. Hein? Si elle avait prié une seule fois, elle serait encore chez elle en train de pleurer. Pendant 30 ans, elle a prié le Seigneur. 30 ans pour qu'il révèle sa vérité. Ouais. Et ceux qui n'ont pas confiance aux flyers, hein? Achetaient tous les flyers dans les poubelles qui rentraient chez elle. Elle était incapable de jeter le flyers qui avait été déposé dans sa boîte aux lettres cette journée-là. Ouais. Dieu a exaucé sa prière. Frères et sœurs, si vous pensez que Dieu n'exaucera pas vos prières, cette femme n'était pas chrétienne et Dieu a exaucé sa prière. À combien plus forte raison notre bon Père céleste cherche, veut absolument exaucer les prières de ses enfants? Amen. Ouais, 30 ans! 30 ans! Joseph, il a attendu 13 ans avant que Dieu exauce la révélation qu'il lui avait donnée, qu'il régnerait. 13 ans! Et c'est ce qui l'a fait tenir debout. Les promesses que Dieu, promesses que Dieu y avait faites à travers les deux songes qu'il lui avait donnés. 13 ans! Frères et sœurs, ce n'est pas la question de temps, c'est une question que Dieu va exaucer votre prière si vous l'invoquez de tout votre cœur, que vous revenez dans ses voies, si ce n'est pas le cas ce matin. Dieu va exaucer vos prières, c'est un Dieu qui est fidèle. Amen. Ouais. Ce passage nous enseigne, peut se résumer en trois points. Dieu veut répondre à vos prières, nos prières seront exaucées, mais pas immédiatement, et nous devons mettre de côté nos doutes et continuer à prier à cause de qui est Dieu. Rappelons-nous que lorsque nous prions pour les autres, nous n'allons pas à l'encontre de la volonté de Dieu, mais nous accomplissons plus au point sa volonté. Versets 7 et 8, ces paroles prononcées par Jésus décrivent trois niveaux de prière, parce que les sujets de prière ne se rassemblent pas tous. Il arrive parfois que nous demandons, il arrive quelquefois que nous cherchons, et il arrive quelquefois que nous devons frapper à la porte du ciel, frères et sœurs. Demandez et on vous donnera. Regardez ce qu'il dit au verset 7 et 8. Demandez et on vous donnera. Regardez la suite. Car quiconque demande, reçoit. Quiconque. C'est-tu Paul, c'est-tu Jacques, c'est-tu Jean, hein? C'est Marie-Claire, c'est Marie-France, c'est Marie-Antoinette, c'est Marie qui? C'est quiconque. Frères et sœurs, le quiconque ne laisse pas de place. Quiconque. Si vous allez en Afrique ou en Inde, vous allez comprendre ce que signifie demander parce que c'est ce que les mendiants font. Dans les pays pauvres, les mendiants se tiennent ouvertement et sans complexe le long des routes, leurs mains ouvertes, tendues, demandant que vous leur donniez quelque chose. Parfois, ils peuvent même insister un peu trop au point d'irriter certains passants. Cela nous aide à nous rappeler que nous serions aussi insistants qu'eux si nous étions à leur place, frères et sœurs. Jésus nous dit que lorsque nous prions, nous devrions commencer en prenant la posture d'un mendiant qui se présente devant un Père céleste bienveillant. Frères et sœurs, on a perdu de vue dans notre génération parce qu'on est des revendicateurs. On a oublié souvent devant qui on se présente le matin. Et plutôt que de devenir comme des mendiants, plutôt que de voir que c'est une grâce que Dieu nous fait, on revendique, on se présente devant Dieu, on revendique qu'il nous donne telle chose. On lui dit, hey, tu vas le sauver, lui. Hey, tu vas la sauver, elle. Hey, un instant. Non. Seigneur, je te prie que dans ta bonté, tu puisses toucher le cœur de mon enfant, tu puisses toucher le cœur de mon fils, de ma fille, et que dans ta grâce, Seigneur, tu le sauves. Ouais. Hey, on vient comme des mendiants, hein? Ouais. Écoutez, des fois, on s'approche d'un Dieu qui est trois fois saint et qu'on n'oserait même pas faire si on devait se présenter devant le roi des Belges, hein? Devant le roi des Belges, devant la reine Élisabeth, en tout cas, des gens qui font la courbette, hein? Parce qu'ils ne se présentent pas devant n'importe qui. Hein? Ça fait plus de 50 ans qu'elle règne, hein, en Angleterre. Alors, elle commande un certain respect, cette femme-là. Hein? Il y a un certain décorum autour de cette femme qui entoure cette femme. Hein? Et pourtant, ce n'est qu'une dirigeante humaine. Hein? Mais dans le Seigneur, son trône est entouré de chérubins, de séraphins, d'archanges et d'anges qui le louent jour et nuit. Frères et sœurs, nous qui ne sommes que de simples mortels sauvés par la grâce de Dieu. Mais Dieu nous donne accès à son trône, frère. Ouais. Et il nous demande de venir dans toute humilité, de venir de se présenter devant lui et de se rappeler qui il est, de se rappeler qu'il ne doit rien. Mais que dans sa grâce, dans son amour, il nous permet d'avoir accès à son trône de grâce jour après jour. Ouais. Pas pour nous faire perdre notre temps, pas pour faire semblant de nous écouter. Dieu tend l'oreille pour non seulement entendre ce que nous lui disons, mais pour exaucer nos demandes. Nous devons demander à Dieu ce dont nous avons besoin en sachant qu'il est en mesure de nous aider. C'est ce qu'il promet. Demandez et cela vous sera donné. Le premier niveau consiste à prier pour nos besoins fondamentaux. Si vous avez besoin de nourriture, demandez à Dieu. Si vous avez besoin d'argent pour payer les factures, demandez à Dieu. Si vous avez besoin de sagesse, si vous avez besoin de conseils, si vous êtes confus, si vous avez besoin d'une guérison, demandez-la à Dieu. N'ayez pas honte ou ne soyez pas gênés de faire connaître vos besoins à Dieu dans vos prières. C'est ce que cela signifie, demander à Dieu qui nous donne notre pain quotidien. Demander implique d'ouvrir notre cœur devant le Seigneur afin que nous puissions recevoir de lui tout ce dont nous avons besoin. Amen. Ouais. Il y a besoin de guérison, demandez-la à Dieu. Il va vous diriger, soit qu'il va vous conduire vers un médecin pour vous soulager, soit il va vous donner la guérison. Il contrôle toutes choses. Moi, dans mon cas, il a utilisé les deux. Hey, on a un grand Dieu, frères et sœurs. Et remarquez à qui il adresse cette promesse. Elle s'applique à quiconque demande. Remarquez jusqu'à ce que cette promesse, elle est claire. Quiconque demande, reçoit. Il ne dit pas « devrait recevoir », mais il dit simplement « reçoit ». Prier commence par faire connaître nos besoins à Dieu, sachant que lorsque nous demandons, nous recevrons une réponse venant du ciel. Et vous savez, un des gros problèmes que j'ai réalisé, c'est dans ma vie de prière en tout cas, hein, je venais constamment devant Dieu. À chaque fois que je priais, je venais devant Dieu pour lui demander des choses. Et il y a aussi, avant de demander des choses à Dieu, la parole nous montre aussi qu'on doit apprendre à connaître celui devant qui on se présente aussi. Et avant de demander, il serait peut-être bon qu'on se présente devant Dieu et dise, Seigneur, je prends conscience jour après jour devant qui je me présente. Ouais. Ouais. Devant le Dieu qui a le contrôle sur mes battements du cœur. Devant le Dieu qui me voit vivre au quotidien, qui entend mes paroles, qui voit ce que je fais, qui voit ce que je pense. Le Dieu à qui je ne peux rien cacher, c'est devant lui que je me présente ce matin. Et vous savez, avant de demander des choses à Dieu, quand on entre dans cet examen-là, on commence d'abord, Seigneur, je veux te demander pardon. Parce que je suis ton enfant et je n'ai pas toujours agi pour t'honorer. Et je veux te demander pardon. Parce qu'il m'est arrivé de salir ton nom. Il m'est arrivé, comme l'apôtre Pierre, de te renier, d'avoir eu honte de dire que je t'appartenais. C'est une belle introduction, ça, hein? Ouais. Je suis convaincu que le Seigneur, dans le ciel, il pleure. Il pleure de joie de voir son enfant qui vient confesser, qui vient ouvrir son cœur devant son Père céleste. Oui. Et le Seigneur, vous savez ce qu'il fait, le Père, il ne condamne pas, hein? Il nous ramène à la source de notre salut, quoi. S'il vous arrive de pécher, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est fidèle et juste pour nous pardonner tout péché. Et là, après, on peut rentrer. Le Seigneur, je n'ai pas grand-chose à te demander ce matin. Pour moi, c'est beaucoup. Pour toi, je sais que c'est rien. Mais Seigneur, je sais que ta volonté, c'est que tu exauces ma prière. En ton temps, je viens te porter mes besoins, je viens te partager mes besoins, je viens te partager mes soucis, je viens te partager mes fardeaux. Oui, Seigneur. Cherchez. Cherchez, vous trouverez, car celui qui cherche, trouve. Cherchez souligne ce désir de trouver quelque chose qui a une grande valeur pour nous. Cela nous rappelle trois paraboles que Jésus a racontées. D'abord, celle de la femme qui avait 10 pièces d'argent et qui en avait perdu une. Celle du berger qui avait 100 brebis, qui en avait perdu une et qui va laisser les 99 autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celle qui était perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Puis celle de cet homme qui cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter cette perle. Frères et sœurs, lorsque vous cherchez quelque chose et que vous désirez ardemment l'obtenir, vous réorganisez vos priorités afin de pouvoir chercher ce que vous désirez jusqu'à ce que vous l'ayez trouvé. Quelqu'un là, qui a envie de travailler, il va finir par trouver un emploi. Hein? Est-ce que j'entends un amen là-dessus? Oui, oui. Oui, hein? Lorsque vous cherchez quelque chose et que vous désirez ardemment l'obtenir, vous réorganisez vos priorités. Ça dépend de vos priorités, hein? Si tu veux travailler avec un travail de 8 à 6, de 8 à 4, bien, tu ne peux pas te coucher à 6 heures du matin, passer la nuit debout à 6 heures jusqu'à 6 heures du matin, hein? Mais ici, lorsque vous cherchez quelque chose et que vous désirez ardemment l'obtenir, Dieu va vous l'accorder. Frères et sœurs, Dieu regarde au cœur. On peut y déverser un flot de paroles, mais Dieu regarde au cœur. Et on sait nous-mêmes si on est sincère ou pas, quoi. On sait si on désire vraiment ou pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ben oui, hein? Hey, vous êtes des êtres humains comme moi, hein? Répondez à ça, c'est vrai ou pas vrai? Ben oui, hein? Ben oui, hein? Ah, j'ai 5 minutes à accorder au Seigneur. Je ne sais pas trop quoi il dit, mais je vais couvrir le temps, 5 minutes. Hein, c'est vrai, hein? Ça nous est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, hein? Ouais. Ou tu n'as pas le temps le matin, tu es pressé, tu as ta liste de prière. Bon, Seigneur, tiens, je te la présente, j'ai pas le temps ce matin. Hey. Ouais, le Seigneur, il s'occupe pas de ces listes-là, hein? Ouais. Moi, j'ai une bonne façon de pouvoir prier pour chacun de vous, hein? Vous savez comment? Je prends le bottin téléphonique de l'Église, première page qui commence par le nom de Brigitte. Une page par jour. Ça, c'est pour prier pour les membres de l'Église. Brigitte Ayers, Ayers, ton nom de famille? Arts, voilà. J'étais pas loin. Mais ça commence par la lettre A, voilà. Voilà. Et les derniers, ça finit par notre sœur qui vient avec Isabelle et Walter, là. Voilà, merci. Allez, non, comment est-ce qu'elle s'appelle, son nom de famille? Voilà. OK. Oui. Il est plus facile à lire qu'à prononcer, quoi. Oui. Voilà. Alors, c'est des petits trucs, hein. Moi, c'est comme ça que je peux me rappeler de plus facilement de vous, puis et ainsi de suite, intercéder pour vous, pour certains besoins que vous m'avez fait connaître. Frères et sœurs, chercher, là, c'est une sorte de prière qui habituellement est liée avec le fait de chercher avec une meilleure compréhension. C'est-à-dire, on va avoir une meilleure compréhension. C'est pour ça qu'on cherche de ce qui nous arrive dans notre vie, surtout lorsqu'on fait face à des épreuves dans notre vie. Rappelez-vous dans 2 Corinthiens, chapitre 12, l'apôtre Paul. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a prié 3 fois? Dans 2 Corinthiens 12, nous apprenons que, afin que Paul ne soit pas rempli d'orgueil pour avoir reçu des révélations extraordinaires de Dieu, entre autres qu'il est enlevé puis qu'il est monté au troisième ciel puis que Dieu lui a donné une révélation qu'il ne lui était pas permis de nous donner, eh bien, Paul, il dit qu'il lui a été imposé dans son corps une dure souffrance. On connaît pas nécessairement la nature de ces souffrances parce que Paul n'en parle pas, mais à 3 reprises, il a demandé au Seigneur de le délivrer et à 3 reprises, le Seigneur lui a dit non. Il a donné une réponse, il a dit non. Ça, c'est le premier niveau de prière, il a demandé. Mais il a continué à insister pour essayer de comprendre Dieu, et Dieu lui a dit, et finalement dit, « Ma grâce est tout ce dont tu as besoin. » Je vais la lire en français courant. « Ma grâce est tout ce dont tu as besoin, car ma puissance manifeste pleinement ses effets quand tu es faible. » Ça, c'est le deuxième niveau de prière, il a cherché. Il a cherché la sagesse de Dieu. Pourquoi Seigneur, tu ne me délivres pas? Il a cherché à comprendre la sagesse de Dieu. Il a essayé de chercher à approfondir sa connaissance sur la sagesse de Dieu. Premièrement, il a demandé. Deuxièmement, il a cherché. Bien que le Seigneur ne lui ait pas retiré cette souffrance dans son corps, Paul a approfondi sa connaissance sur Dieu qui nous aide à comprendre pourquoi Dieu n'avait pas répondu à ses premières prières. Et cette sorte de prière, frères et sœurs, elle ne vient pas si nous ne cherchons pas à plusieurs reprises le Seigneur. Deuxièmement, le Seigneur, il dit non seulement chercher, mais il dit frapper, non seulement demander, chercher, mais frapper. Frapper et l'on vous ouvrira. Regardez au verset, qu'est-ce qu'il dit? Car on ouvre à celui qui frappe. Et le mot frapper, il signifie se tenir à la porte en cognant de façon répétée avec son poing. De façon à se faire entendre pas. De façon à se faire, c'est ce que le mot grec veut dire, hein? Tape, tape, frappe, frappe. Vous frappez à nouveau et vous entendez, puis vous frappez encore une fois en disant, je sais que tu es là, je sais que tu es là. Puis vous frappez encore en disant, je peux entendre maintenant votre voix, je peux entendre maintenant votre voix derrière la porte, j'entends vos pas venir. Et vous continuez à frapper tant que la porte ne ferme pas. Frère, c'est ça, si c'est vous qui étiez de l'autre côté de la porte, vous savez à quel point il est fatigant, dérangeant d'entendre quelqu'un qui insiste à frapper sur la porte jusqu'à ce que vous lui répondiez. Quand ça sonne chez vous, puis que c'est un colporteur, vous priez presque que la sonnette se brise, hein? Ou que la pile tombe morte. C'est vrai, hein? C'est vrai, c'est pas vrai. Et les colporteurs, là, ils ont compris ce que des fois on a de la difficulté à comprendre. C'est en insistant qu'on finit par avoir des réponses. On finit par avoir la porte ouverte. Peut-être que le gars va lui dire, écoute, t'es pas fatigué, là, d'user ma sonnette. Va-t'en, je veux rien savoir. Mais au moins, il y en a qui insistent jusqu'à ce que tu ouvres la porte. Hein. Et non seulement ils se contentent d'ouvrir la porte, mais ils regardent ils reculent, ils font 3 pas pour regarder s'il n'y a pas de la lumière dans la maison pour être sûr qu'il y a quelqu'un. Et ils reviennent, ils sonnent ou ils frappent si vous n'avez pas de sonnette. Hein. C'est comme ça. Mes frères et sœurs, c'est ce que Jésus est en train de nous dire ici. Frappe. Frappe tant et aussi longtemps que le Seigneur, que tant et aussi longtemps que le Père Céleste ne t'ouvre pas la porte. Ouais. Insiste. Insiste tant qu'il n'ouvre pas la porte. C'est précisément l'image qu'il y a derrière ces mots prononcés par Jésus. Ça implique non seulement de continuer à prier malgré la difficulté, mais d'insister. Si vous n'arrêtez pas de frapper de cette manière, vous démontrez à quel point vous désirez que quelqu'un vous réponde. Et le colporteur, c'est exactement ce qu'il fait. Il ne s'en va pas parce qu'il désire. Il désire qu'on lui ouvre la porte. Et frères et sœurs, c'est une bonne leçon pour nous. L'évangéliste dans le Nouveau Testament, l'image des portes ouvertes fait souvent référence avec le fait de chercher la volonté de Dieu et de prier pour que de nouvelles opportunités s'ouvrent devant nous pour répandre l'Évangile. Je vais vous raconter une histoire que j'ai déjà racontée, mais vu qu'il y a quand même plusieurs nouveaux depuis, je vais vous la raconter à nouveau. L'évangéliste Charles English raconte ce qui suit à propos de George Miller. « Lorsque je suis allé en Amérique pour la première fois, dit-il, il y a 31 ans, le capitaine du navire était l'un des plus fervents croyants que j'ai jamais connus. Alors que nous nous approchions de Terre-Neuve, il me dit, « Monsieur English, la dernière fois que je suis passé par là, il y a 5 semaines, il s'est passé une chose si extraordinaire qu'elle a changé toute ma vie de croyant. Jusqu'à là, j'étais un croyant ordinaire, comme il y en a beaucoup. Mais il y avait à bord un homme de Dieu, M. George Muller, de Bristol. J'avais passé 22 heures sans quitter le pont de commandement un seul instant. Lorsque je sursautais parce qu'il m'avait touché l'épaule, parce que quelqu'un m'a touché l'épaule, c'était George Muller. Capitaine, je me suis retourné et il m'a dit, « Capitaine, je suis venu vous dire que je dois être à Québec samedi dans la soirée. » Nous étions mercredi. Je lui ai dit, « C'est impossible. » Très bien, lui m'a-t-il dit, « Si votre navire ne peut m'y amener, Dieu trouvera un autre moyen de transport pour moi. Depuis 57 ans, je n'ai jamais ni manqué, ni été en retard à aucun de ses engagements. À aucun de mes engagements, pardon, répondit M. Muller. Je serais très heureux de vous aider, dit le capitaine, mais que puis-je faire? Il n'y a aucun moyen, lui dis-je. J'entrons ici pour prier, me répondit M. Muller. De quelle maison de fou s'est-il échappé, me suis-je dit en moi-même? Je n'avais jamais entendu parler d'une chose pareille. C'est un chrétien, le capitaine, hein? Je lui dis alors, « Monsieur Muller, savez-vous quelle est l'épaisseur de ce brouillard? » Il me répondit, « Non, mes yeux ne voient pas le brouillard, ils voient le Dieu vivant qui dirige tous les événements de ma vie. » Il tomba à genoux et se met à prier de façon la plus simple possible, dit le capitaine. Je pensais, cela ressemble à la prière d'un enfant de 8 ou 9 ans. Il dit à peu près ceci, « Ô Seigneur, si telle est ta volonté, fais disparaître ce brouillard en 5 minutes. Tu sais que j'ai promis d'être à Québec samedi, pour partager ta parole, je crois que c'est ta volonté. Lorsqu'il eut fini, je voulus prier moi aussi, dit le capitaine, mais il m'a mis la main sur l'épaule et me demanda de ne pas le faire, précisant premièrement, vous ne croyez pas que Dieu le fera, et deuxièmement, je crois que Dieu l'a déjà fait. Il n'est donc pas nécessaire que vous priez dans ce même but. J'ai dévisagé M. Muller qui poursuivit, capitaine, je connais mon Dieu depuis 57 ans. Et il n'y a pas un jour où je n'ai pas eu audience auprès de mon roi. Levez-vous, capitaine, ouvrez la porte et constatez que le brouillard a déjà disparu. Je me levai et en effet, le brouillard avait disparu. Le samedi soir, George Muller était à Québec comme il le désirait. C'est extraordinaire, hein? Ce n'est pas une histoire pour les enfants, c'est un fait vécu. C'est extraordinaire. George Muller avait toujours voulu évangéliser et Dieu lui a montré que sa volonté était autre. Qui devait s'occuper des orphelinats. Et à 69 ans, alors pour ceux qui se sentent finis, usés, là, on a un gars qui s'est élevé pour le Seigneur à 69 ans. Il y a eu un deuxième appel pour le Seigneur de l'évangéliser, il a fait le tour du monde. Il est mort à 93 ans. Donc, moi, je suis en train de me convaincre que de proclamer l'Évangile, ça te fait vieillir encore un peu plus vieux, ou fait mourir un peu plus tard dans ta vie. 93 ans. Et il est mort comme à l'âge qu'il avait 23 ans, ce gars-là. Dieu, c'était un roc. Dieu l'a tenu debout. Il a prêché jusqu'à 93 ans. Quoi. 93 ans. La semaine passée, j'ai fait une grosse erreur. Je vous ai dit qu'il y avait un livre dans lequel il avait écrit toutes les prières qu'il avait demandées à Dieu et les prières qu'il avait exaucées. Et je vous ai dit que Dieu avait répondu à 10 000 de ses prières. Mais j'ai fait une grosse erreur parce que après sa mort, on a découvert tous ses livres. Et dans ses livres, il y avait 50 000 prières. Auquel Dieu avait répondu. Extraordinaire, hein? C'est extraordinaire, quoi. 50 000. Je ne sais pas combien de pages je serais capable de remplir, moi, des prières que j'ai demandées à Dieu, puis des prières qu'il a exaucées. Et vous, frères et sœurs, combien de pages on serait capable de remplir? Ouais. On n'est pas en train de parler de Jésus-Christ, là, on est en train de parler d'un être humain, un simple mortel comme vous et moi. Mais qui, jour après jour, prenait audience auprès du trône de la grâce de Dieu pour faire connaître ses besoins. Et Dieu répondait à ses besoins. Quand le Seigneur, le Dieu qui tient la terre, qui tient l'univers dans ses mains, répond à vos prières, vous le voyez de façon tout à fait différente. Hein? Ouais. Il est vivant dans vos vies. Hein? Et combien ça vous fait grandir dans votre foi? Comment ça vous fait grandir dans votre foi? Je ne sais pas si c'est ici que j'ai dit ça. Hein? Le problème aujourd'hui avec l'Église, hein, c'est qu'on a une trop grande connaissance de la parole et très peu d'expérience de la parole. Et tant aussi longtemps qu'on n'expérimente pas la parole, notre foi ne grandira jamais. Parce qu'on mettra toujours en doute que ce qu'il y a là-dedans, c'est possible que ce soit réalisé à cette époque-là, mais pas nécessairement aujourd'hui, c'est peut-être terminé pour nous. Voilà pourquoi on doit s'impliquer dans l'Église. C'est à travers l'implication qu'on a dans l'Église, c'est à travers le service qu'on offre à l'Église, qu'on expérimente la parole. Parce que Dieu veut agir à travers ses enfants. Mais il y a des gens qui connaissent la parole sur le bout de leurs doigts, mais que leur foi est au même niveau qu'avant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas expérimenté. Ils n'ont pas expérimenté les miracles qui sont dans la parole. Ils n'ont pas pu expérimenter les promesses qui sont dans la parole. Parce qu'on expérimente ces promesses-là quand on met en pratique, finalement, la foi chrétienne. Quand on met en pratique cette connaissance qu'on est allé chercher dans la parole. En réponse à ceux nombreux qui voulaient savoir comment le croyant pouvait acquérir une telle foi, Georges Müller donna les règles suivantes. Je vais vous en donner trois. Il dit lire la Bible et la méditer. On en vient à connaître Dieu par la prière et la méditation de sa parole. S'efforcer de garder un cœur intègre et une bonne conscience. Troisièmement, si nous voulons voir progresser notre foi, il ne faut pas chercher à éviter ce qui la met à l'épreuve et dont elle peut sortir grandie. De plus, pour que notre foi se renforce, il faut que nous laissions Dieu agir pour nous à l'heure de l'épreuve et non nous efforcer de trouver notre propre libération. Si le croyant désire posséder une grande foi, il doit laisser à Dieu le temps de faire son œuvre. Voilà le secret pour une vie de prière dynamique. Rappelez-vous dans Jean chapitre 11, versets 39 à 44, frères et sœurs. C'est la mort de Lazare. Et Jésus arrive, Lazare est mort depuis un certain nombre de jours. Combien de jours? Merci. 4 jours. Et là, Jésus demande ici, il est devant le sépulcre de Lazare, et il dit à ceux qui étaient là, « ôtez la pierre », et ils ôtèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux vers le haut et dit, « écoutez bien sa prière. » Maintenant, la question que j'aimerais que vous vous posiez, est-ce que cette prière-là, elle s'applique uniquement à Jésus? Ou si elle est disponible pour tous les croyants? « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Et à un autre endroit, Jésus dit, « Lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. » Cette prière que Jésus fait, elle s'applique à tous les croyants. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Vous savez pourquoi le Seigneur a toujours, le Père a toujours exaucé le Fils? Parce que le Fils a toujours vécu une vie conforme à ce que le Père lui demandait. Et notre problème, il est souvent là, frères et sœurs. Il est souvent là. Hein? Faut arrêter de se voiler le visage. Hein? Notre problème, il est souvent là, quoi. Parce qu'on a des manquements, parce qu'on ne vit pas comme Dieu le demande. Bien, Dieu est fidèle à sa parole. Hein? Il ne peut pas exaucer. Hein? Ben oui. Si on demande pour des besoins égoïstes, dit l'apôtre Jacques, Dieu ne peut pas exaucer, parce que le but, c'est toujours de glorifier Dieu. C'est toujours de glorifier Dieu. Voilà pourquoi Dieu répond à nos prières. Dieu, il voit les raisons pour lesquelles on prie. Ici, là, il l'a vu, hein, la raison pourquoi Jésus prie. Hein. Vous pensez que le Père ne sera pas glorifié, il va ramener un mort à la vie. Dans le monde dans lequel on vit, c'est difficile de surpasser, d'aller plus haut que ça. Hein. Ramener un mort à la vie. Hein. Ouais. Le Père va être glorifié. Et le Père va se glorifier à travers le Fils. Et il va exaucer la prière du Fils. Quand j'examine ces trois niveaux de prière, il me semble qu'il n'y a pas de limite. Quiconque peut prier Dieu en ayant la certitude que Dieu va répondre. À trois reprises, Jésus mentionne ce que nous devons faire, demander, frapper et chercher. Puis à six reprises, il nous dit que nous recevrons, que nous trouverons et que la porte sera ouverte pour nous. La façon dont Jésus parle ici, c'est comme si Dieu plaide et mendie pour que nous osions venir à lui dans la prière. Je me rappelle d'une remarque que Billy Graham avait faite en disant qu'il y a plusieurs chambres dans le ciel remplies de réponses aux prières pour lesquelles personne n'a encore pensé demander à Dieu. Moi, je trouve ça profond, en tout cas. Ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a des entrepôts, de choses qu'il voudrait déverser dans nos vies, de bénédictions qu'il voudrait déverser dans nos vies. Et il ne peut pas nous les donner parce qu'on ne lui demande pas. C'est ça que Billy Graham est en train de dire, quoi. C'est pas que quand on arrive avec une prière, on prend Dieu à court puis il dit « Attendez un peu, je vais vous répondre dans deux semaines parce qu'il faut que je fabrique la bénédiction, quoi. » Non, hein. Il dit « Les entrepôts de Dieu débordent. Débordent de bénédictions qu'il veut donner à ses enfants, mais il ne peut pas les donner parce qu'ils ne lui ont pas demandé. » C'est incroyable, quoi. Verset 9 et 10, on voit le caractère de Dieu. Regardez, comment pouvons-nous être certains que si nous demandons, si nous cherchons et si nous frappons, nous allons recevoir, nous allons trouver et que la porte va s'ouvrir devant nous? Jésus dit que ce que nous espérons recevoir par la prière ne repose pas sur nous, ni sur la puissance de la pensée positive, mais dans le caractère même de Dieu qui est notre Père céleste. Et regardez ce qu'il dit. « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? » Les parents qui aiment leurs enfants désirent les aider, frères et sœurs. C'est ce que font les parents normaux, en tout cas. Ils donnent de bonnes choses à leurs enfants. Si votre enfant vous demande une pierre ou un serpent, est-ce que vous allez lui donner ce qu'il demande? Non, même si vous lui l'avez demandé. S'il insiste et qu'il vous supplie malgré tout, allez-vous lui donner ce qu'il vous demande? Non. Maintenant, s'il vous dit « je ne peux pas vivre sans ce serpent », bien, vous allez quand même continuer à lui dire non. Les enfants demandent souvent des choses qui risquent de leur faire du mal, et que nous refusons de leur donner parce qu'on les aime. La même règle s'applique avec Dieu. Il arrive que nous insistons souvent auprès de lui pour qu'il nous donne des choses qui nous semblent justes et qui, pour Dieu, ressemblent à un serpent venimeux. Notre Père céleste dit non, et ce n'est pas parce qu'il nous déteste, mais c'est parce qu'il nous aime. Amen. Parfois, le nom de Dieu est le signe le plus évident qu'il nous aime. Supposons que votre fils de 25 ans demande de jouer avec un couteau bien aiguisé. Qu'allez-vous faire? Vous allez lui dire non, et vous allez le laisser pleurer, et vous allez le laisser bouder, s'il doit bouder. Ses larmes démontrent jusqu'à quel point il est immature, et d'un autre côté, si vous lui donnez le couteau, vous démontrez que vous ne l'aimez absolument pas. Nous demandons souvent des choses qui pourraient nous faire du mal, et on ne le réalise pas, mais Dieu connaît toutes choses d'avance. Ça pourrait être un nouveau travail, ça pourrait être un salaire plus élevé, ou un nouveau conjoint, mais Dieu voit la fin de toutes choses, frères et sœurs, et il sait ce que nous lui avons demandé nous fera du mal, nous fera du bien. Et que ça ne nous aiderait pas du tout. Alors, parce qu'il nous aime, il nous dit non. Si donc méchant, verset 11, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Cinq mots ici, à combien plus forte raison Dieu, à combien plus forte raison? Mon père n'a jamais été un homme parfait, mais je sais qu'il m'aimait. Je ne suis pas un père parfait, mais j'ose espérer que mes enfants ne douteront jamais de l'amour que j'ai et que j'avais pour eux. Il y en a un qui est plus grand que moi, dont le cœur est pur et bon, et dont l'amour est illimité. Il est mon Père céleste, et il m'invite à venir devant lui dans la prière. C'est là ce que veut dire Jésus lorsqu'il dit « À combien plus forte raison? Qu'est-ce que vous attendez? » À combien plus forte raison, qu'est-ce que vous attendez pour vous présenter devant lui? Dieu sait beaucoup plus de choses que nous. Il se soucie beaucoup plus de nous que nous pouvons le penser. Il nous aime encore plus que nous pouvons l'aimer. Et il est beaucoup plus disposé à répondre à nos prières que nous pouvons même le penser, frères et sœurs. Comment pouvons-nous être certains que Dieu se soucie autour de nous? Bien, je vais vous inviter à faire une petite promenade, frères et sœurs. Venez avec moi. Et montons ensemble jusqu'à la colline, qui se trouve juste un peu à l'extérieur de Jérusalem, non loin de la porte de Damas. Regardez attentivement les trois hommes qui sont en train d'agoniser sur ces croix romaines. Imaginez la scène, écoutez la foule qui se moque et méditez sur le sens des sept paroles prononcées par Jésus qui est cloué suspendu sur cette croix entre deux malfaiteurs. Vous aurez alors votre réponse. Frères et sœurs, Dieu se soucie tellement de nous. Dieu s'est tellement soucié de notre avenir éternel qu'il a sacrifié son propre Fils. Dieu nous aime parce qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a fait cela, frères et sœurs, sans que nous lui demandions. À combien plus forte raison ce qu'il nous demande, il va nous exaucer. Il a envoyé son Fils sur la terre alors que nous étions toujours des pécheurs, que nous étions en rébellion complète contre lui, en sachant que nous le ferions mourir. Est-ce qu'il refuse de nous donner de bonnes choses quand nous le demandons? La croix nous démontre qu'il n'y a pas de mal dans le cœur de Dieu, que si nous nous approchons de ce Dieu si bon pour lui faire connaître nos besoins, il répondra. Remarquez la dernière phrase de notre texte ici. Il promet d'accorder de riches bénédictions à qui? À qui? À qui? À ceux qui les lui demandent. Vous voulez avoir des bénédictions de Dieu? Bien, vous devez demander à Dieu. Tout passe par Dieu. Je comprends pas, moi, Dieu me bénit pas autant que l'autre. Ben oui, mais peut-être que l'autre prie un peu plus que toi, hein? Ouais, j'ai l'impression que Dieu m'aime moins, moi. Hein? Il me donne pas rien. Ben peut-être que je vais demander que Dieu te donne telle chose, hein? Et peut-être que tu vas demander telle et telle chose et Dieu va te montrer qu'il ouvre une porte vers autre chose, hein? C'est pas ce que tu veux faire ou ce que tu veux faire que Dieu veut faire dans ta vie. C'est ce que lui a déjà prévu d'avance pour toi, hein? Il promet d'accorder de riches bénédictions à ceux qui les lui demandent. Nous devons donc nous attendre à ce que Dieu réponde à nos prières et nous pouvons nous attendre à ne rien recevoir si nous ne prions pas. Est-ce que vous êtes amen à ça aussi? Ah oui, hein? Et c'est quoi ça? Je ne vais pas me tromper. Qui demande rien n'a rien. On dit ça ici, oui. Ben voilà. Qui demande rien n'a rien. Qui ose demander risque de recevoir. Chez les hommes, mais qui ose demander à Dieu, reçoit. C'est ce que Jésus dit. Dieu nous invite au plus profond de lui-même à le prier. Nos doutes proviennent de nos cœurs. Qui allons-nous croire? Allons-nous croire ce que Dieu dit ou allons-nous croire ce que nous ressentons en nous-mêmes? C'est là tout ce qui fait la différence, hein? Maintenant, je vais vous confier un secret. Je vois vos visages. Il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui sont comme ça. Il y en a combien? Honnêtement, je ne vous demanderai pas de lever la main. Il y en a combien qui doutent que les versets de 7 à 11 de Matthieu chapitre 7, ça devrait être une réalité dans leur vie et qu'ils ne laisseront peut-être jamais? Alors que ce n'est pas une parole du pasteur, c'est une parole du Seigneur Jésus-Christ. Combien il y en a qui peuvent dire ce matin, moi, je crois par la foi que ce que Jésus dit ici, ça peut se réaliser dans ma vie si je mets en application ce qu'il dit ici. Est-ce que vous croyez vraiment à ce que Dieu dit? Est-ce que Dieu dit peut se réaliser? Et si vous vous fiez sur votre ressenti ce matin? Et peut-être que vous doutez parce que vous n'avez jamais vu Dieu exaucer vos prières jusqu'à maintenant. Parce que vous avez une vie de prière qui n'est pas nécessairement régulière. Peut-être que votre vie aussi spirituelle fait défaut. Et vous mettez en doute parce que vous dites, « Ben Dieu, moi, il ne m'a pas vraiment répondu aux prières. » Et je pense que même que les prières que j'ai faites, j'étais capable de les exaucer par moi-même parce que je n'ai jamais osé demander trop à Dieu. Mais pourquoi pas commencer à prendre Dieu au mot ce matin? Pourquoi pas le prendre au mot? Ouais. Seigneur, je prends ta parole au mot. Ta parole, elle est vivante, elle est efficace, elle est tranchante, Seigneur. Et d'abord, je vais venir devant toi pour te montrer, avant de te demander quoi que ce soit, je vais venir devant toi pour te montrer jusqu'à quel point je te connais. Et comme j'ai fait tantôt, hein, Seigneur, je suis indigne de me présenter en tant qu'être humain devant toi. Mais je viens, Seigneur, couvert par le sang de Jésus-Christ. C'est la seule façon que je peux me présenter devant toi, Seigneur. Et en me présentant de cette façon-là, Seigneur, tu ne me vois pas moi en tant que pécheur, mais tu me vois en tant que ton enfant parce que tu me vois à travers le Seigneur Jésus-Christ qui m'a sauvé. Et là, vous allez voir le trône de Dieu commencer à s'illuminer. Vous ne serez peut-être pas capable de les entendre chanter, mais les anges vont chanter autour du trône de la grâce de Dieu. Les chérubins vont chanter. Les archanges vont chanter. Et les séraphins aussi vont chanter. Ouais. Ouais. Seigneur, merci. Merci de t'être révélé dans ma vie. Seigneur, merci. Parce que si je peux te parler aujourd'hui, c'est à cause du sang de l'agneau versé pour mes péchés. Merci, Seigneur, de me trouver digne en lui. Et Seigneur, sur la base de tes promesses maintenant, uniquement sur la base de tes promesses, je me présente devant toi pour te faire connaître mes besoins. Parce que, Seigneur, mon plus grand désir, c'est que tu me bénisses afin que je puisse rendre témoignage des bénédictions que j'ai reçues dans ta grâce auprès de mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et là, quand vous arrivez le dimanche, dans la louange et dans l'adoration, vous partagez au peuple de Dieu les bénédictions que Dieu a déversées dans vos vies durant la semaine. Ouais. Parce que quiconque demande reçoit, quiconque cherche trouve, et quiconque frappe, eh bien voit la porte s'ouvrir devant lui. Et la porte s'ouvrir devant nous, frères et sœurs, c'est la porte du royaume des cieux, c'est la porte qui se trouve au ciel, c'est la porte du paradis, Seigneur, où le Seigneur se trouve, dans son ciel. En terminant, si nous doutons de la bonté de Dieu, nous ne prierons pas. Et lorsque nous traverserons des moments difficiles, nous nous inquiéterons et nous paniquerons parce que nous aurons oublié jusqu'à quel point Dieu a été bon pour nous. Le fait de nous rappeler les bénédictions que nous avons reçues de Dieu nous fortifieront dans les moments difficiles et nous donneront le courage de prier avec des actions de grâce. 50 ans après la mort de George Miller, les journaux publièrent la vie suivante, c'est-à-dire juste après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà ce qui était écrit dans un journal anglais. L'orphelinat de George Miller à Bristol demeure l'une des merveilles du monde. Depuis sa fondation en 1836, le chiffre des contributions que Dieu lui a accordées uniquement en réponse aux prières en 1945 atteignait plus de 20 millions de dollars et le nombre des orphelins recueillis s'élevait à 19 935 personnes, enfants. Bien que les vitres de près de 400 fenêtres aient été récemment brisées par les bombes au cours de la Seconde Guerre mondiale, aucun enfant, aucun membre du personnel n'a été blessé. George Miller avait rendez-vous avec Dieu jour après jour. Il n'a jamais, jamais, jamais fait connaître ses besoins à quiconque, sauf uniquement à Dieu. Alors, quand il recevait 100 000 $, il ne pouvait pas dire, « Ouais, mais j'ai passé par un frère. » J'ai dit, « Écoute, pense à moi. » Non, c'était directement à Dieu. Comme le vélo d'Hudson Taylor la semaine passée. Ouais. Et tu dis, « Seigneur, ça te fait-tu grandir dans ta foi, ça? » Il dit, « Écoute, j'ai dit juste à toi, là. J'ai dit juste à toi. » Je ne l'ai pas dit fort, donc il n'y a pas personne qui était caché derrière une porte qui a entendu et qui m'a aidé. Non, je t'ai parlé à cœur ouvert. Je t'ai parlé à toi, Seigneur, dans le secret de ma chambre. Je t'ai demandé de me faire connaître les besoins. Vous savez, le boulanger qui a été réveillé de nuit par Dieu pour amener du pain, pour nourrir les 1200 orphelins qu'il y avait à ce moment-là. George Miller n'a jamais su qui avait amené les pains. Mais cet homme-là avait promis qu'après sa mort, si on lui demanderait, il rendrait le témoignage comment Dieu l'avait touché, comment Dieu l'avait réveillé durant la nuit. Vous avez pensé, un boulanger se fait réveiller en plein milieu de la nuit. Je ne sais pas si Boris n'est pas là ce matin, là, mais il a commencé à vous taper 1200 pains. Pas 1200 pains, mais au moins 600 pains hein, pour nourrir ces enfants-là. Ensuite de ça, le laitier, vous savez, on peut se promener avec un cheval et une charrette. Là, une charrette, on peut dire ça, oui. Oui, voilà. Hein? Et là, avec des bidons de lait, on allait déposer ça à différentes places dans les villages. Et bizarrement, bien, la roue de la charrette, elle a brisé juste en face de la porte de l'orphelinat. Ils avaient besoin ce matin-là du pain. Ils avaient besoin du lait pour les orphelins. Et le gars, il a dit, moi, de toute façon, il fallait qu'il enlève ses bidons s'il voulait défaire la roue. Et de toute façon, il n'y avait pas de dépanneuse. Hein. Il devait attendre toute la journée pour être capable de fabriquer, de tricoter sa roue pour pouvoir retourner. Eh bien, il est allé frapper à l'orphelinat. Il a dit, écoutez, je vais vous donner mon lait parce que je vais le perdre. Je vais le perdre si je ne viens pas vous le porter, si je ne le donne pas. Et Dieu a répondu, mais des affaires incroyables, comment Dieu a provoqué des choses. Je ne sais pas si ça stimule votre foi ce matin. Hein. Mes frères et sœurs, j'espère que personne ne s'est senti coupable de quoi que ce soit, parce que mon but, c'était vraiment de vous encourager. Le même Dieu qui a répondu aux prières de Jésus, le même Dieu qui a répondu aux prières de Georges Miller, le même Dieu qui a répondu aux prières d'Élie, c'est ce même Dieu qui veut répondre à vos prières ce matin, frères et sœurs. Amen. Et notre prière, la première prière qu'on pourrait peut-être faire ce matin, si c'est votre cas, hein, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, augmente la mesure de ma foi ce matin. Augmente la mesure de ma foi pour que je sois un digne témoignage de la personne de mon Sauveur, Jésus-Christ. Frères et sœurs, continuez à prier. Ne vous découragez pas si Dieu tarde à vous répondre ou si vous êtes écrasé par les circonstances. Laissez les paroles de Jésus inonder vos cœurs. Demandez, demandez, continuez à demander ou vous recevrez. Cherchez, cherchez, continuez à chercher et vous trouverez. Frappez, frappez, continuez à frapper et on ouvrira la porte. Pardon. Et par la grâce de Dieu, Dieu va ouvrir cette porte. C'est là la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Prouvons-lui que nous le croyons lorsque nous prierons Dieu cette semaine. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter un cantique.